Matin, que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous. Hein? C'est pour ça que nous sommes ici. Hein? Ce matin, j'aimerais vous parler, j'aimerais avoir avec vous une réflexion sur le figuier. Le figuier et la figue. Voilà, c'est que l'on trouve partout dans la Bible. Dieu est là à partir de la Genèse. Hein? Vous savez que Adam et Ève, une fois qu'ils ont péché, ils se sont fait des vêtements avec des feuilles de vigne. On le trouve 57 fois dans la parole de Dieu. Et jusqu'en Apocalypse, hein, lorsque, en parlant de la colère de Dieu, il a dit, les étoiles, ils tomberont du ciel, et le figuier, il sera bougé, le figuier, il bougera, et ils vont tomber les fruits sur toute la terre. Donc, du commencement jusqu'à la fin, on voit ce figuier, cette vigne. Vous savez, les figuiers, ça symbolise la paix, la prospérité et l'abondance dans la parole de Dieu. Donc, il y a d'autres, et on va voir quelques images dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et on va faire quatre lectures. Bien sûr, il y en a d'autres où le figuier et la figue, ils sont nommés et desquels on peut en retirer des enseignements. Mais j'en ai pris quatre parce que notre temps est compté. Hein? Midi, midi et demi, il faut arrêter. Hein? Si j'en ai pris jusqu'à 10, mais je crois que pas beaucoup de monde resterait. Hein? Pour faire les 10. Donc, j'en ai pris 4 lectures et ils sont suffisants pour nous donner des enseignements que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie chrétienne. Parce que la parole de Dieu, c'est la lettre d'amour que Dieu nous a donnée afin que nous puissions mener une vie qui lui soit agréable. Voilà, la première lecture, on va la faire dans l'évangile de Jean. Chapitre 1, le verset 43 jusqu'à 51, pardon. Alors, Jean, 43. Je vais commencer à lire. Il parle de Jésus qui est en train de prêcher. Et verset 43, il parle de Philippe. Maintenant 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, c'est Philippe. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Voyez ici déjà la première chose, sans compter sur les figuiers, on voit déjà que quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ le Messie, il a ouvert son cœur à Jésus, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a parlé à Simon, son frère, qu'il est devenu Pierre, hein? Et ensuite, il parle à une autre personne. Continuons la lecture. Et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé, il dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe, voilà, et il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, je te l'ai dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de Dieu. » Voilà la première lecture. Et dans ce texte, on voit deux personnes qui se mettent à la suite de Jésus. La première personne, bon, c'est Philippe. Hein? Le Seigneur, il appelle Philippe, il lui dit, « Suis-moi. Suis-moi. Hein? » Et Philippe ne pouvait pas garder cette bonne nouvelle. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsqu'on rencontre le Seigneur, on ne peut pas la garder sur nous. Nous devons en parler. Et Philippe, il a justement fait ça. Ça, c'est un bon enseignement pour nous. Il dit, il ne pouvait pas garder cette bonne nouvelle parce qu'il a rencontré Jésus. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'il a fait, qu'il fait? Il parle. Et il parle à Nathanaël, cet homme. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'il lui dit? Eh bien, il a dit, on a rencontré celui dont Moïse, il parle. C'est Jésus de Nazareth. Et lui, il a dit, mais peut-il venir quelqu'un de bon, quelque chose de bon de Nazareth? Là, Philippe ne sait pas laisser aller dans la discussion. Hein? Mais oui, tu vas voir que c'est Jésus, il a fait ça, il a fait ça. Il a... Non, il a dit, écoute, viens et vois. Viens, vois et écoute. C'est ça. Et Nathanaël, il a été touché par ce que Philippe lui disait. Et il a dit, d'accord, je viens. Alors, il l'amène vers Jésus. Et ici, il se passe quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que normalement, Philippe, il amène Nathanaël à Jésus. Normalement, il aurait dû le présenter à Jésus. Tiens, Jésus, voilà quelqu'un que j'ai rencontré, il veut te connaître. Ici, non, c'est Jésus lui-même, il ne le laisse même pas parler. Et Jésus, il regarde Nathanaël et lui dit, voilà un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël s'étonne. Il dit, mais d'où est-ce que tu me connais? Et Jésus lui dit, je t'ai vu sous le figuier. Et là, il a explosé. Et là, on voit aussi Jésus, il dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Là, on voit l'omniscience de Jésus. Jésus, il connaît toutes choses. Et ici, on voit, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Qu'est-ce qu'il voulait, dire là, le Seigneur? Il faut savoir qu'en Israël, il fait très, 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 très chaud à cette époque. Et donc, les gens, selon la Torah et selon la Mishnah qu'ils apprennent, à cette époque-là, lorsqu'ils voulaient, ils faisaient deux choses lorsqu'ils voulaient être en communion avec l'Éternel. Premièrement, ils se mettaient sous un figuier parce que le feuille, il leur donnait de l'ombrage. Et ça, c'est être sous le figuier, ça voulait dire deux choses, c'est étudier la Torah. Pour nous, c'est étudier l'Écriture. Et lorsqu'on avait envie de prier, parce qu'il faisait très chaud, alors il se mettait sous l'ombrage. Vous comprenez pourquoi Jésus, il a dit, « Je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. » Et Jésus, il a vu la personne, il a vu Nathanaël quand il était en train d'étudier la parole de Dieu. Il a vu Nathanaël lorsqu'il était en train de prier le Seigneur. Voilà pourquoi c'est un bon enseignement pour nous, être sous le figuier. Le figuier se représente, être sous le figuier se représente étudier la parole de Dieu. Et aussi, ça signifie la prière. C'est les deux choses dont le chrétien il a le plus besoin. Car sans ces choses-là, on ne peut pas croître dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est quelque chose que j'ai continué à donner des coups de marteau sur ces choses-là, parce que c'est très important. Un chrétien, nous qui sommes des chrétiens, nous devons connaître le Seigneur. Comment est-ce qu'on le connaît? En lisant la parole. En l'étudiant, en la méditant. Et pas seulement en l'étudiant, en la méditant, mais en priant pour que le Seigneur puisse nous ouvrir l'esprit et pour que nous puissions comprendre ce qu'il nous dit dans sa parole. Car c'est une chose, lire la parole, c'est une autre chose de la comprendre. Pourquoi nous devons la comprendre? Pour la mettre en pratique. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit, nous ne le mettrons jamais en pratique. Voilà pourquoi il faut l'étudier. Et c'est quelque chose de très important dans notre propre vie. Voilà ce que le figuier il nous dit. Qu'il faut étudier la parole. Jésus, il l'a vu. Jésus, il nous voit. Dieu, il nous voit lorsque nous étudions la parole. Pas nous la lisons. Parce qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui ouvrent la Bible, lisent un chapitre et ils la renferment et c'est terminé. Voilà, j'ai fait ce que je dois faire. J'ai lu la parole. C'est pas comme ça. Dieu, il voit quand vous ouvrez la Bible. Dieu, il entend lorsqu'on prie. Et c'est ces deux choses qui vont nous faire croître dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qui nous apprend ici le Seigneur Jésus. Et c'est l'étude de la parole et la prière, quelque chose. Et le Seigneur, il lui dit, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Où est-ce qu'on doit trouver le plaisir ? En lisant la Bible, en l'étudiant, en la méditant. Lorsqu'il y a des enseignements à l'Église, c'est là qu'il faut trouver le plaisir. Pas en regardant la télé ou en faisant autre chose, ou en s'occupant d'autre chose. C'est étudiant la Bible. Car c'est lorsqu'on est ensemble qu'on étudie la Bible. Parce qu'on est, on est tous remplis de l'Esprit. Comme mercredi, un frère dans l'étude biblique, il a sorti une pensée qui ne m'était même pas venue à l'esprit. Je n'avais pas pensé. Et pourtant, c'était une pensée réconfortante, une pensée instruisante. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble. L'esprit, il parle à travers moi, il parle à travers vous. L'esprit, il me dit quelque chose et à vous, il vous dit autre chose. Qu'ils se rejoignent les deux, mais la chose, elle a été dite d'une différente façon. Voilà pourquoi la Bible nous le dit. Heureux l'homme qui met tout son plaisir dans la loi de Dieu. Et nous devons, en tant que chrétiens, mettre tout notre plaisir à être sous le figuier, à étudier la parole, comme il faisait Nathanaël. Il ne le savait pas, mais Dieu le voyait. Dieu le voyait. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Voilà la première image que je voulais vous donner. Sous le figuier, c'est l'étude de la parole et la prière. Deuxième image, on la trouve dans l'évangile de Marc. Marc, chapitre 11, le verset 12. C'est une histoire qu'on connaît. Hein? Alors, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut ressorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car il n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Il est en lisant à partir à verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, il dit à Jésus, « Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits, à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, c'est la deuxième image. C'est l'histoire du figuier maudit. Hein? Et cette histoire est surprenante. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que Jésus, il fait un miracle et il n'en résulte du mal. C'est la première fois, à part à la fois, lorsque vous en souvenez, lorsque les cochons dans les Gadaréens, qu'il y avait les démons, hein, Jésus les a chassés, il a dit « Donne-nous, permette-nous de rentrer dans les cochons » et ils se sont jetés dans l'eau et ils sont tous morts. Mais ici, c'est la première fois que le miracle de Jésus, il détruit au lieu de faire du bien. Hein, parce que l'arbre, hein, il a... Jésus, qu'est-ce qu'il est arrivé? Jésus avait faim. Jésus était un homme. Et il avait faim, il avait soif, il souffrait, comme nous tous. Hein? Alors, il nous est au verset 12. Et donc, il espérait, il a vu un figuier. La chose qu'il faut bien avoir dans notre esprit, il a vu un figuier, mais ce figuier, il avait des feuilles. Alors, en passant avec ses disciples, il voit le figuier avec des feuilles et il s'approche. Il a faim et il veut manger. Hein? Et c'est quelque chose que c'est normal. Il a vu qu'il n'avait pas de fruits et il l'a maudit. Alors, pourquoi est-ce que Jésus il a maudit ce figuier? Le texte nous le dit clairement au verset 13. Pourquoi il l'a maudit? Parce qu'il n'avait pas de fruits. Alors il dit, mais pourquoi il l'a maudit? Parce qu'il n'avait pas de fruits. Et l'explication, on la trouve dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Voilà pourquoi ici, cet enseignement que nous allons en retirer, c'est l'enseignement de l'être et paraître. C'est-à-dire... être quelque chose et paraître quelque chose. Cet arbre, le figuier, il avait des feuilles. Et normalement, lorsqu'un figuier, il y a des fleurs dans un figuier, pas des fleurs, des feuilles dans un figuier, il y a des fruits. C'est ça. Lorsqu'il y a des feuilles, c'est qu'il y a des fruits. Jésus, il s'approche et il n'y a pas des fruits. Mais encore une fois, il s'approche de cet arbre, sûrement qu'il y en avait d'autres, parce que l'Israël, hein, la Galilée, il était plein de figuiers. Sûrement il y en avait. Mais Jésus, il a vu celui-là qu'il avait des feuilles. Il s'approche, il n'y en a pas, et il le maudit. Il y avait d'autres arbres autour. Mais les autres arbres, ils n'avaient pas de feuilles. Donc, pourquoi ils n'avaient pas de feuilles, les autres arbres? Justement, ils nous l'expliquent, les tests. Parce qu'il n'était pas la saison. Parce que le figuier, c'est l'arbre qui pousse avant tous les autres arbres. Normalement, lorsqu'il y a des feuilles, c'est qu'il y a du fruit. Et là, il n'en a pas trouvé. Deux explications, dans l'Ancien Testament, les figuiers, ils représentent Israël. Israël, hein, comme la vigne, c'est le symbole du peuple d'Israël. Voyez pourquoi il faut connaître l'Ancien Testament. Et Jésus, il explique toutes ces choses-là. Et le ressort de cet enseignement sur les figuiers, on le trouve aussi dans Luc. Regardez, Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, les versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouvait point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit, et ce fruit, et je n'en trouve point. Coupe-le. » Pourquoi occupait-il la terre inutilement ? Les vignerons lui répondirent : Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Encore une fois, comme je vous ai dit, un homme avait un figuier. Figuier, il représente Israël. Où il était Israël ? Dans sa vigne, c'est-à-dire dans son territoire, dans Israël, qui représente encore Israël. Et cet arbre, ce figuier, hein, il avait travaillé, il n'y avait pas de fruits. Voilà. Jésus, il avait faim, il y a beaucoup de feuilles. Normalement, quand il y a des feuilles, c'est qu'il y a des fruits. Il n'y en avait pas et il a été maudit. Et ici, dans cette parabole, le Seigneur dit exactement, il dit, qu'est-ce que je vais en faire de ce figuier ? Il ne porte pas de fruits. Je vais les couper. Et il y a le vigneron qui dit, mais Seigneur, laisse-les encore un peu de temps. Peut-être que par la suite, il va te donner des fruits. Voilà pourquoi cet enseignement est très important pour nous aussi. Cet arbre, il paraît plein de feuilles, et normalement, il devait porter des fruits. Et cet arbre, c'est Israël. Israël, normalement, en tant que peuple de Dieu, c'était à lui d'enseigner aux nations tout autour qu'il y a un seul éternel, qu'il y a un seul Dieu. Il devait propager la loi de Moïse, mais il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi le Seigneur, il le voit plein de feuilles, cet arbre, et il dit, il y a des fruits, mais Israël, il n'a pas fait son devoir. Voilà pourquoi a été maudit. Ici, ce verset, il nous parle de jugement, des jugements sur la nation d'Israël. Et pas seulement sur la nation d'Israël, mais surtout ceux qui veulent être, mais ils ne le sont pas. Ils paraissent être ce que le Seigneur il demande, mais ils ne le sont pas. Et tous ces gens-là, ils vont passer par les jugements. Et Jésus, il nous enseigne encore cet enseignement de jugement sur, pas seulement sur Israël, mais surtout ceux qui ils montrent quelque chose, mais ils ne le sont pas. Dans Matthieu 24, regardez, verset 32, le Seigneur, il utilise encore les figuiers, mais en signe de jugement. Et le Seigneur, il dit, au verset 32, il dit, « Tirez instruction de la parabole du figuier. » Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Encore un enseignement sous le jugement. Quand vous verrez les figuiers avec les feuilles, ça veut dire qu'il y a les fruits. Voilà pourquoi cet arbre a été maudit. Parce que cet arbre, le peuple d'Israël, il montrait qu'il était le peuple de Dieu. Nous sommes fils d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves, nous avons l'Éternel pour roi. Il disait, mais il ne l'était pas. Lorsque Moïse il est descendu de la montagne, il a dit, voilà ce que le Seigneur il m'a dit, voilà les commandements de l'Éternel, je vous les énumère tous. Et tous les peuples, il a dit, nous obéirons. Et Moïse tout de suite après, il leur a dit, je sais que vous ne pouvez pas obéir aux commandements de Dieu sans l'aide de Dieu. Mais tout de suite, nous obéirons. Mais nous connaissons l'histoire dans le désert, n'est-ce pas ? Une continuation de murmures, de rébellions et toutes ces choses-là. C'est des gens qui veulent paraître, mais ils ne sont pas. Beaucoup de gens, ils se disent chrétiens, comme il a parlé les frères en Haïti tout à l'heure. Ils disent qu'ils sont des prophètes, qu'ils font ça. Ils disent, mais ils ne le sont pas. Parce que pour l'être, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne dira jamais « Jésus est le Seigneur ». Être chrétien, c'est différent que de paraître. Combien il y en a de gens aujourd'hui qui te disent « Je suis chrétien ». Mais sont-ils passés par la nouvelle naissance? Ont-ils Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Sont-ils remplis de l'Esprit de Dieu? Toutes ces choses-là. Voilà pourquoi cet arbre, il est passé par ce jugement de Dieu. Et il nous est dit par la suite, lorsque vous verrez les feuilles qui poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, et ici il parle aussi, pas seulement du jugement d'Israël, mais aussi du jugement des nations. Lorsque vous verrez ce figuier avec des feuilles, ça veut dire que l'été est proche. Mais lorsque vous verrez ces choses, sachez aussi que le Fils de l'homme va venir. Le figuier avec des feuilles. En 1948, Israël est devenu une nation. Une nation avec des feuilles. Une naissance d'en haut. Esaïe l'a dit, qui a jamais entendu qu'une nation il naisse en un seul jour? Et c'est ainsi qu'il s'est passé à l'ONU. Hein, dans une seule journée, ils ont déclaré la naissance de la nation d'Israël, que tous ils croyaient avoir été disparus. Mais lorsque Dieu le promet une chose, il l'a fait. Il a dit, je vous rétablirai. Vous reviendrez dans le pays que je vous ai donné. Et cela s'est réalisé en 1949. Et il nous a dit, lorsque vous verrez ces choses, pensez que bientôt le Seigneur va venir. Ces choses se sont passées en 1949. Le Seigneur, il peut venir d'un moment à l'autre. Parce que la prophétie est en route, comme l'a parlé le frère ce matin de la prophétie. Apocalypse. Heureux ceux qui lisent la prophétie. Car c'est dans la prophétie que nous avons la joie et la paix. Car notre Seigneur, il va revenir. L'être et les paraître. Comment est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes des vrais chrétiens? Ou nous paraissons des chrétiens à la vue des autres? Est-ce que notre vie, elle est bien ouverte? Est-ce que notre vie, elle est lisible tout autour de nous? Ou alors nous cachons? Est-ce que nous comportons en tant que chrétiens lorsque nous sommes avec des frères et sœurs? Ou lorsque nous sommes éloignés des frères et sœurs ou de l'Église, nous nous comportons comme le monde. L'être ou paraître. Avec Dieu, il n'y a que l'être qui compte. Ceux qui paraissent, Jésus il leur dira, comme il a dit aux faux prophètes, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles. Nous avons propagé ta parole. Jésus il a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Deuxième leçon, être ou paraître, comme les figuiers. Il paraissait beau, avec des feuilles, mais pas de fruits. Vous dites, vous êtes chrétien, quels sont les fruits que vous portez? Est-ce que vous témoignez? Est-ce que vous aidez les frères et sœurs? Est-ce que vous allez vers les pécheurs? Est-ce que vous priez les uns pour les autres? Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous l'étudiez, la Bible? Est-ce que vous priez? Si vous ne faites pas ces choses-là, vous êtes seulement, vous paraissez chrétien. Mais Dieu, il connaît toutes choses. Dieu, il connaît toutes choses. Il y a une autre image des figues et des figuiers. On la trouve dans deux rois. Regardez, deux rois. Deux rois, chapitre 20. Et il nous parle du roi d'Israël, Ézéchias. Voilà ce qu'il dit. Au premier verset, on peut prendre. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Imaginez-vous, il est malade, Le prophète, il s'approche et il te dit, Aldo, donne les ordres à la maison, tu vas mourir, c'est fini pour toi. Ézéchias tourna le visage contre les murs. Il a pleuré, bien sûr. Lorsque la mort est là, on pleure. Et on se tourne vers le Seigneur. Et cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Dieu écoute nos prières. Ézéchiel lui dit, prépare-toi, donne les ordres, tu vas mourir. Et il s'en va. C'est ça le prophète. Il vient, il annonce et il s'en va. Il fait ce que Dieu lui dit de faire. Ézéchias, il a prié, il a versé des larmes. Ésaïe était parti. Et c'est là que l'Éternel lui parle. Dieu écoute nos prières. Quand il monte vers lui avec un cœur brisé. Continuons la lecture. Et il dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ici aussi, c'est un grand enseignement pour nous. Dieu écoute nos prières. Mais Ésaïe lui avait dit, tu vas mourir, donne tes ordres. Il a prié et Dieu lui accorde encore. Il lui a accordé 15 ans. Vous savez pourquoi Dieu? Parce que Dieu, il connaît notre avenir. Il connaît les choses que nous faisons. D'ailleurs, Ézéchias, avec ses 15 années, il a péché contre l'Éternel. Il s'est rébellé contre l'Éternel. Et Dieu, il lui avait dit, prépare-toi, tu vas mourir comme ça. Ézéchias, il savait qu'il avait bien servi le Seigneur. J'ai accompli ta volonté, je t'ai servi. Mais Dieu, il voit ce qui va. Dieu, il veut nous épargner toutes ces choses-là. Et il lui a donné 15 années. Et il lui a dit, je te soigne, je te donne ces 15 années. Pas parce que toi, tu le mérites, tu m'as bien servi. Parce que en tant que serviteur, nous devons que servir. Nous n'avons rien à réclamer. Seigneur, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça. Non, nous n'avons rien à réclamer. Et il nous l'a dit, l'Éternel, je protégerai cette ville à cause de moi, pas à cause de toi. Parce que moi, j'ai promis que j'aurais protégé cette ville. Mais je te donne encore 15 années. Et au verset 7, regardez. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère. Ézéchias guérit. La figue, il a des propriétés de guérison. Ou sinon de guérison. Il lui a appliqué. Et figue, et il a guéri. Un autre exemple aussi, on le voit, Abigaël. Vous vous en souvenez d'Abigaël? Quelqu'un sait qui c'était, Abigaël? C'était la femme de Nabal. Vous me dites, qui c'est Nabal? Voilà, l'étude de la parole de Dieu. Nabal, David, avec les gens qui le suivaient, poursuivi par Saül, il protégeait les habitants. Et alors, partout où il allait, les gens, ils leur donnaient à manger. Il arrive à Nabal, et Nabal, il a dit, tu n'as rien pour moi. Alors, il y avait sa femme, Abigaël. Cette femme, elle savait qui était David. Et il lui a dit, tu es un ange de Dieu. Il a dit, et il lui a ramené des provisions pour sa troupe. Des fruits et tout ça. Et il lui a préparé un gâteau de figues. Et il l'a apporté à David pour le donner à tous ceux qui étaient avec lui. Voilà, cette femme qu'il a voulu aller au-delà de ce qu'il a fait, son mari. Il a dit, pardonne mon mari. Et on voit ici que les figues, ils font deux choses. Ils apaisent, parce qu'avec le gâteau de riz d'Abigaël, la colère de David, il voulait le détruire. Il a dit, comment, je te protège, toi et tes moutons, hein, des bandits qui peuvent venir, et toi, tu ne me donnes pas à manger. Mais ce gâteau d'Abigaël, ils ont apaisé la colère. Et on a vu aussi que les figues, ils guérissent. C'est exactement ça que nous devons prendre, cette image des figues. Les figues, ils apaisent et ils guérissent. Tout ça, bien sûr, ça vient de l'Éternel, des dieux. Et ça représente aussi notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est venu ici-bas sur cette terre pour apaiser les souffrances de tous ceux qui étaient dans le besoin. C'est lui qui a apaisé toutes ces souffrances-là. Lorsqu'il voyait des gens qui n'avaient pas à manger ou à boire, il nous aide, la Bible nous dit, ému de compassion. Et il intervenait. Et aussi, il guérissait. Mais voilà, le Fils de l'homme, il est venu guérir. Et c'est ça que le Seigneur il nous demande aussi. Et il n'y a qu'en lui qu'on peut trouver l'apaisement et qu'on peut trouver la guérison. Voilà pourquoi constamment dans la Bible, il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » On trouvera un renouveau avec Jésus-Christ. Si on est dans la souffrance, dans les besoins, on va à Jésus-Christ, toutes ces choses, ils vont s'évanouir. Si on est malade, vers qui pouvons-nous nous tourner d'autre que Jésus? C'est lui le guérisseur. C'est lui qui guérit. Dans notre église, il y a pas mal de gens qui souffrent. Voilà pourquoi nous continuons à prier notre Seigneur et Sauveur, car nous savons qu'il n'y a que lui qui guérit. Et nous sommes sûrs qu'un jour, ces personnes-là, ils vont se rétablir. Comme Ézéchias, qu'on l'a vu. Mais des fois, le Seigneur, il peut ne pas intervenir, justement pour éviter, parce que lui, il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît notre cheminement. Voilà pourquoi cette image-là, il nous montre le renouveau et le pardon aussi, parce que c'est Jésus qui guérit, pas seulement les maladies physiques, mais surtout les maladies spirituelles. Et c'est à travers lui que nous passons par un renouveau. La quatrième image, c'est le dernier. Voilà pourquoi je vous l'ai dit que j'en avais 10, mais je ne vais pas vous les prendre les 10. La quatrième image, nous la trouvons dans Joël. Regardez Joël, le chapitre 2. Verset 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé, du moût et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse, réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. » Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie et la première et la dernière saison, comme autrefois. Ici, la quatrième image, c'est la promesse éternelle du bien-être avec Dieu. C'est ça. Dieu il nous promet que des bénédictions pour chacun de nous. Et ce mot-là, sous sa vigne et son figuier, sous la protection d'Israël et de Dieu. Voilà, sous la protection de Dieu. Ici, il nous parle de la période où Jésus il va régner ici-bas, pendant le millénium. Toutes choses, ils prendront la place qu'il aurait dû jamais quitter. C'est le Messie qui va régner ici-bas et nous n'aurons plus besoin de rien. Nous serons sous les figuiers et sous la vigne à l'abri. Et c'est répété ça, dans Michée 4, il nous a dit sous ses vignes et ses figuiers. Dans Zacharie, au milieu des vignes et des figuiers, l'abondance, la promesse de Dieu pour tous ceux qui lui font confiance. Il va y avoir une période de bénédiction et il appelle tout à ne pas craindre. Terre, ne crains pas. Bête, ne craignez pas. Vous, enfants, ne craignez pas. Soyez dans la joie. Pourquoi? Parce que nous serons sous la vigne et sous le figuier, sous la protection de Dieu. Et il y a ce merveilleux passage qui nous est dit dans Malachie, là, pas dans Malachie, Michée, hein, dans Michée, il nous est dit que, c'est le verset qui est utilisé à Bruxelles, à la place, juste en face où il y a le bâtiment de l'Union européenne. Ils ont construit une statue qui représente justement le verset qu'il est dit dans Michée 4, 4. Le prophète Michée en donne une belle image dans ce texte, et il dit, les hommes transformeront leur épée en soc et leur lance en serpe. On n'apprendra plus à faire la guerre, et ils demeureront chacun sous sa vigne et son figuier, et personne va les troubler. Et cette image-là, ils ont fait une statue devant le bâtiment de l'Union européenne. Comme quoi, pourquoi ils ont mis ça? Parce qu'il dit, les hommes transformeront les repas en soc. Plus de guerre, plus rien du tout, plus de souffrance. Et leur lance en serpe, le travail et la bonne volonté au service du Seigneur. Et ici, il y a ces temps forts, les promesses éternelles. C'est le temps messianique. Et ce temps, nous l'attendons tous. Pourquoi? Parce que c'est le temps de bonheur, un temps d'harmonie, en toutes choses, même la nature. Vous voyez la nature aujourd'hui, elle n'en peut plus, la nature. Et il nous a dit clairement que la création, dans Romains, il nous a dit, Paul, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. La nature elle-même entière, elle attend la venue de ce Messie. Pourquoi? Parce qu'avec lui, il nous a dit, lisez Esaïe, Jérémie, les déserts, ils vont fleurir. Et ça, c'est grâce au Messie. Et c'est ça qui nous donne cette image, les promesses éternelles d'un bonheur. Et tous ensemble, nous qui sommes des chrétiens, nous espérons ces temps qui viennent. Pourquoi? Parce qu'en ayant l'Esprit de Dieu, nous désirons vivre dans la paix. Le Seigneur, il a dit, je viendrai, j'apporte la paix. C'est à ce moment-là que le monde entier, il verra ce monde-là. Voilà, un petit résumé. Nathanaël, sous le figuier, il étudiait la Torah et il priait. L'être et les paraîtres, le figuier maudit, parce qu'il était ce qu'il paraissait ce qu'il n'est pas. Pas de fruits. Un chrétien qui ne porte pas de fruits, c'est pas normal. C'est pas normal. Il nous a dit que l'arbre, on le connaît à ses fruits. Et aussi dans les Ézéchias, c'est les renouveaux, c'est les pardons et les renouveaux, la guérison et l'apaisement de la colère de Dieu, si nous nous laissons envahir. Et quatrièmement, hein, sous sa vigne et sous son figuier, c'est les promesses éternelles de bien-être sous la conduite du Messie. Puissons-nous nous souvenir de ce figuier et aussi mettre en pratique tout ce que ce figuier y représente. Car si nous sommes conduits par l'Esprit, nous vivrons toutes ces choses. Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Amen.